je vais essayer effectivement de vous donner l'opinion que j'ai ressentie au travers du périple que j'ai effectué dans les trois ateliers et des résumés qui m'ont été faits en particulier par les jeunes étudiants de l'INSEC qui ont assisté à ces ateliers. Pour préciser deux choses par rapport à moi, effectivement je suis né dans cette région, et comme disait Mauriac, ce n'est pas moi qui ai quitté Bordeaux, c'est Bordeaux qui m'a quitté, puisqu'on a supprimé ma commune de naissance. Donc il a bien fallu que j'en tire les conséquences. Donc je suis parti. Mais j'y reviens toujours avec grand plaisir, d'autant plus que ce sera une occasion aussi pour moi de conclure. Dans cette région est né Frédéric Bastiat, qui est un économiste qui est beaucoup plus connu en pratique aux États-Unis qu'en France. Et je conclurai à partir de ce que disait Frédéric Bastiat, qui était né à Bayonne, qui avait une maison de négoce à Bordeaux et qui habitait en Chalosse. Est-ce qu'on peut être plus aquitain que Frédéric Bastiat? Deuxième remarque que je ferai, c'est que je suis présenté comme ayant des activités de journalisme, et effectivement, plutôt que de faire une psychanalyse, j'exprime mon courroux sur la vie ambiante au travers de chroniques dans des journaux. Et ça coûte moins cher, non pas qu'on soit très bien rémunéré quand on fait dans le journalisme, mais au moins ça coûte moins cher qu'une psychanalyse. Mais j'ai également des activités d'enseignement à l'École supérieure de commerce de Paris et à l'École des mines de Paris, et j'ai le plaisir d'avoir constaté que dans la salle, il y a un de mes anciens élèves de l'École des mines de Paris, qui est un des jeunes ingénieurs de la DRIR Aquitaine. Il y a peut-être d'ailleurs dans la salle des gens qui ont été au lycée avec moi ou qui ont eu mes parents comme instituteurs. Mes parents étaient instituteurs cours de la Somme dans l'école Nansouty. S'il y en a à qui c'est arrivé d'avoir croisé mes parents, mais je leur en donnerai des nouvelles. Alors, mais je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, qui était banale comme la plupart des vies, mais pour vous raconter celle de l'Aquitaine et des entrepreneurs d'Aquitaine, au travers donc du compte-rendu et du résumé des travaux des trois groupes. Alors, je vais vous donner mon impression. Vous savez, en Italie, traduire et trahir, c'est le même mot. Et donc, je vais traduire les sentiments qui vont être une trahison de ce qui s'est passé, mais qui seront un peu un moyen aussi de lancer le débat et de vous donner un moyen de réfléchir à la situation de l'économie aquitaine. Ce qui m'a frappé, à titre de prolégomène encore, sur la présentation qui a été faite ce matin par les trois présidents, c'est l'impression à la fois que l'Aquitaine s'en sort pas si mal que ça, puisque le taux de chômage est un peu en dessous de la moyenne nationale, mais que malgré tout, il y a un véritable malaise économique dans cette région comme partout ailleurs. Et il y a deux chiffres qui m'ont frappé. Le fait que dans les chefs d'entreprise, quand on leur demande est-ce que vous sacrifiez votre personnel ou est-ce que vous sacrifiez vos investissements, la réponse de ceux qui choisissent de sacrifier les investissements est pratiquement la moitié, et ceux qui sacrifient leur personnel est 17%. Et donc je commenterai pas ça, mais ça m'a frappé parce que on va revenir, et ça sera une transition vers l'atelier 1. Il y a toute une vraie réflexion qui est une réflexion sur quel doit être le rapport entre l'entreprise et son environnement, et qu'est-ce que c'est que son environnement. Il y a eu une autre réflexion dans le même type, dans un des ateliers, c'est on arrêtera de fabriquer des boîtes de vitesse à Blanquefort quand on aura réussi à reconvertir tous les ouvriers. Et c'est une réflexion que je trouve extrêmement intéressante, parce que le but d'une entreprise n'est pas de reconvertir ses ouvriers avant de cesser de travailler, c'est de trouver des marchés pour continuer à leur donner du travail. Et donc, je crois que dans tout ça, c'est une des interrogations qui va sourdre dans tout ce que j'ai perçu au travers de ces ateliers. Alors, le premier atelier, c'était le management à l'aune de la crise au niveau aquitain. Je présenterai mes propos avec l'impression générale, et puis une ou deux remarques ou anecdotes que j'ai glanées dans la période où j'y étais. Donc, non, le premier atelier, c'était pas le management, c'était le financement. Donc, le financement, ce qu'il en est ressorti au travers de ce que j'ai pu sentir, c'était que effectivement, les entreprises aquitaines sont dans la même situation d'ailleurs que beaucoup d'entreprises. Elles souffrent de trois choses. D'abord, comme c'est un tissu qui est assez fondamentalement un tissu de PME, elles souffrent de manque de fonds propres et de capacité à mobiliser des financements pour reconstituer ces fonds propres. La deuxième chose qui a marqué les entreprises aquitaines, c'est que la forme de credit crunch qui est apparue, la forme de rétraction du crédit qui s'est marquée dans le système financier général, a mis à mal les trésoreries. Et indépendamment du fonds propre, il y a un problème de passage d'une période de tension. C'est à ça que ça sert d'ailleurs, les fonds propres. C'est de pouvoir faire face aux périodes dans les cycles des économies qui sont les périodes de rétractation de l'économie. Mais donc il y a un problème de financement et de rapport avec les entreprises. D'ailleurs, comme on le disait dans le couloir quand nous sommes entrés tous les deux dans ce groupe, on disait « Ah, normalement, on va assister à un des jeux les plus favoris des Français, c'est la condamnation définitive et sans appel du banquier. » Alors, c'était pas tout à fait ça qui s'est passé. Il y avait ça quand même, hein, faut bien dire ce qui est. Le banquier est un grand méchant. Il y a un des intervenants qui a dit d'ailleurs que si on pensait que les banquiers étaient des grands méchants, la bonne solution c'était de multiplier les banquiers, parce qu'il n'y a rien de tel pour calmer un méchant que d'avoir un autre méchant. Deux méchants, ça finit par faire un gentil. Ça s'appelle la concurrence. Et une des conclusions du groupe, c'était aussi qu'il fallait de la concurrence. Mais je reviens aux éléments essentiels. Manque de fonds propres, problème de trésorerie et de passage de la période difficile. Et derrière ce problème, un problème de confiance. Et assez essentiel. Et puis, le troisième élément qui a été apporté, c'est face à ça, le fait que les banques, en fait, sont pas si méchantes que ça, et que les banques, elles sont là pour financer les projets porteurs. À un moment donné, il y avait inscrit sur le tableau « Nous ne sommes pas là pour financer vos pertes ». Et donc, en fait, effectivement, une banque n'est pas là pour financer des pertes, mais pour créer des bénéfices, pour faire en sorte que les entreprises font des bénéfices. Et il y a eu une période d'insistance sur la dimension innovation et capacité du système financier à identifier les entreprises innovantes, notamment dans ce réseau de PME qui caractérise l'Aquitaine. Dans les anecdotes, j'ai relevé deux choses. La première, c'est qu'il y a eu 900 cas RICOL en Aquitaine, 900 dossiers qui ont été transmis à la commission RICOL. Quand on regarde par rapport au niveau national, je trouve que c'est pas mal, ce qui prouve que la tradition, le dynamisme local, c'est aussi de savoir aller voir l'intendant. Et il y a une vieille tradition ici d'essayer de tirer un maximum de l'intendant. C'est un côté un peu anglais, ça, d'aller chercher l'État pour l'arnaquer. Je trouve ça pas mal. Et donc, je trouve ça plutôt intéressant. Et la deuxième information qui m'a paru intéressante, c'est qu'il y a quelqu'un qui est intervenu sur la situation de la Gironde et non pas de l'Aquitaine, en disant qu'en fait, quand on regardait au travers des rentrées fiscales, qui sont un indicateur évidemment intéressant de la situation économique, eh bien, les impôts qui s'étaient vraiment effondrés étaient les impôts qui étaient liés à l'immobilier. Et donc, la crise en Aquitaine est fondamentalement aussi une crise de l'immobilier, comme elle a été sur la crise mondiale. Et donc, je dis ça parce que, dans les conversations que j'ai eues autour des groupes de travail et tout ça, la dimension de la chute des prix d'un certain nombre de biens, et notamment c'est le cas de l'immobilier, ne m'a pas paru avoir joué un rôle très important dans les réflexions menées. C'est-à-dire que une des questions que se posent les économistes, là, tout à l'heure, ils vont nous expliquer ça de façon plus brillante que moi, mais est-ce qu'on va vers l'inflation ou la déflation? Est-ce que les prix vont durablement baisser ou est-ce que les prix vont repartir du fait des politiques monétaires qui sont menées? Et ça, pour l'instant, c'est pas une préoccupation qui paraît claire et nette parce que elle est plutôt centrée, effectivement, essentiellement sur l'immobilier. Alors, à titre d'anecdote, ça me fait toujours rire, donc j'essaie de faire partager mon rire, mais la crise américaine est née de l'immobilier aussi. Et la chute du prix de l'immobilier, on l'a mesurée récemment avec la maison de Richard Culp. Richard Culp, je ne sais pas si vous voyez qui est Richard Culp, c'est l'ancien PDG de Lehman Brothers. Et donc, il avait une maison qui valait 12 millions de dollars. Et quand la justice américaine s'est intéressée à cette maison pour essayer de récupérer une partie de ce qu'il avait reçu de Lehman Brothers dans des conditions où Lehman Brothers aurait peut-être pas dû les lui donner, il a vendu cette maison à sa femme 100 dollars. Alors là, c'est de la chute du prix de l'immobilier. Mais alors, là où l'histoire a une morale que je trouve intéressante, c'est qu'une fois que sa femme a été propriétaire de la maison, elle lui a dit « Bon, ben, il faut qu'on aille jusqu'au bout, donc tu dégages de la maison. » Et elle a installé son amant à sa place. Comme quoi, la crise a des aspects assez moraux. Alors, le deuxième atelier, c'était donc l'atelier sur le management. Donc, il y a eu trois idées, là aussi, qui m'ont paru intéressantes. La première idée, c'était que, justement, l'augmentation des prix, l'inflation, ne pouvait pas être une solution au problème de l'entreprise. L'entreprise allait être obligée de se gérer, de réguler ses problèmes et de régler ses problèmes à prix relativement constant. Et donc, elle n'absorberait pas les coûts dans des augmentations de prix, mais elle absorberait les coûts dans sa capacité à mieux se gérer. La deuxième idée, c'est que dans les paramètres coûts, il y a évidemment la main-d'œuvre, mais il y a de plus en plus un certain nombre d'autres paramètres, dont toute la partie qui tourne autour du développement durable. C'est-à-dire que la matière première redevient un enjeu, par sa rareté relative et par sa rareté recréée par la logique intellectuelle du développement durable. Ça redevient cher d'utiliser certains types de matières premières. Et donc, l'entreprise, encore une fois, l'entreprise moyenne, est confrontée à des arbitrages à rendre entre le coût du personnel, le coût des matières premières, la nécessité de maintenir des prix assez bas et la nécessité de générer suffisamment de cash pour pouvoir réaliser des investissements dans le futur. Et donc, il y a une équation assez exigeante vis-à-vis de cette entreprise, puisque elle n'a pas la souplesse de l'inflation et elle a la contrainte des nouveaux paramètres que vont constituer la montée en puissance du coût des matières premières. Enfin, la troisième idée qui m'a paru intéressante, c'est que c'est la notion de capital humain. Alors, cette notion est une notion qui est une notion assez répandue, cette idée que il y a du capital humain. Il y a eu, quand j'y étais, il y avait l'intervention d'une jeune femme qui est dans la salle, forcément, et que je voyais difficilement parce que, à mon âge, on est à la fois myope et presbyte, donc on voit ni de près ni de loin. Et donc, qui était un témoignage assez remarquable, plus qu'un témoignage d'ailleurs, une contribution assez remarquable. C'est une jeune femme qui travaille à Soulac dans le secteur médical.
Marilyn Minot, dirigeante d'Imagine Édition.
Voilà.
Nous la retrouverons tout à l'heure dans une table.
J'espère, parce que ce qu'elle racontait était passionnant. Et en particulier, donc, à un moment donné, elle expliquait bien effectivement qu'elle avait réussi à sensibiliser son personnel au problème des clients, c'est-à-dire que l'entreprise n'était pas au service du personnel. L'entreprise était une combinaison complexe dans laquelle le personnel s'associait à la définition d'un produit qui allait être vendu. Et elle a osé une chose extraordinaire. Moi, je suis d'une génération où il y avait tous les jours dans les rues des gens qui acclamaient Marx, Lénine, Engels, Staline, Mao, etc. Et donc, elle a utilisé le mot « exploiter ». Et je trouvais ça très fort. C'est-à-dire que j'ai trouvé une modernité dans ça, d'être capable de dire que l'entreprise s'est exploitée, mais pas exploiter les hommes, c'est exploiter leurs talents, tirer profit de leur capacité. Et donc, je trouvais cette façon de s'exprimer, cette façon de présenter les choses particulièrement intéressante. Alors, sur la dimension un peu anecdotique, je dirais aussi que ce qui me frappe, et ça c'est que dans la façon de s'exprimer, j'interviens dans d'autres endroits, j'étais récemment à la chambre de commerce de Bobigny, j'étais à d'autres endroits et tout ça, le chef d'entreprise commence en général par 5 minutes de poncif, et ensuite il dit des choses intéressantes. Et donc, il ne faut pas avoir honte d'être chef d'entreprise, vous pouvez éviter les 5 minutes de poncif, le politiquement correct, je fais dans le social... Jamais ouvrier. Tout le monde s'aime et tout le monde se déteste. Donc ça aussi, je trouve sur le plan anecdotique, le mode d'expression est un mode d'expression, à part cette jeune femme, est un mode d'expression qui, il n'y a pas à avoir honte d'être chef d'entreprise. Alors, j'en reviens au dernier atelier qui était sur l'entreprise et ses territoires. Et donc, c'est par là que je vais conclure puisque je vais passer par Frédéric Bastiat. L'entreprise et ses territoires, il est évident que l'idée générale, c'est que l'augmentation du prix du transport, pour des raisons politiques, pour des raisons objectives économiques, le prix du pétrole augmente parce que les impôts augmentent sur le pétrole et parce que le prix du pétrole augmente de façon tendancielle à la surface de la planète. Donc la notion de proximité réapparaît, la notion de fourniture de biens et de services à une activité économique. Ce qui m'a frappé là aussi, c'est deux choses. La première, quand je suis rentré, il y avait quelqu'un qui disait... L'entreprise est au centre de beaucoup de choses. Alors, je ne suis pas du tout d'accord. L'entreprise n'est pas au centre de beaucoup de choses, elle est au centre de tout. Sans entreprise, il n'y a rien d'autre. C'est par l'entreprise que se crée la richesse. C'est parce qu'il y a des entreprises qu'il y a de la richesse, et parce qu'il y a des entreprises qu'il y a des gens qui ont du travail, qui créent de la richesse, qui échangent de la richesse. Donc, elle n'est pas au centre de beaucoup, elle est au centre de tout. S'il n'y a pas de créateur d'entreprise, il n'y a pas de société. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est que la même personne parlait de l'espèce d'accumulation pathétique des réglementations. Et il dit « on crée des usines à gaz ». Et quelqu'un dans l'assistance lui dit « qui c'est on ?». Alors il est parti dans un discours apparemment bien structuré, sujet, verbe, complément. Mais 5 minutes plus tard, on ne savait toujours pas qui était on. Et je crois que c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est on. on crée beaucoup de choses pour empêcher les entreprises de vivre. Seulement, on ne sait pas qui c'est. Mais qui est-ce au juste? Et c'est ça un des problèmes. Et donc, comme mon quart d'heure est pratiquement terminé, je vais faire la partie un peu personnelle qui va passer le relais aux économistes et à mes collègues économistes. Je crois que, au travers de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a rapporté, de ce que j'ai vécu dans cette matinée, je crois qu'effectivement, maintenant, une région comme l'Aquitaine est assez représentative de ce qui se passe dans le pays, dans la France. C'est-à-dire que c'est une région qui va être confrontée à trois défis. Le premier défi, c'est on. Combien de temps on va créer des usines à gaz? Parce que c'était ça, ils créent des usines à gaz. À un moment donné, dans le premier atelier, quelqu'un a dit « Les banques ne sont pas là pour financer les pertes ». Ce qu'il y a de pathétique, à mon avis, c'est que les banques ne financent pas les pertes des usines, mais elles financent les pertes des usines à gaz. C'est-à-dire que, grosso modo, vu la masse de dette publique qui a été émise, les banques achètent de la dette publique. Et la dette publique, ça crée des usines à gaz. Donc on, la dette publique, les usines à gaz, c'est toujours la même personne. Et à titre personnel, et je crois que tout le monde en est d'accord, on, c'est-à-dire cette fois-ci nous, avons intérêt à plutôt nous en méfier. Donc je crois que un des enjeux, c'est que on arrête de créer des usines à gaz et que les banques arrêtent de payer les pertes des usines à gaz. La deuxième réflexion que m'a inspiré c'est ce qui s'est passé, c'est le rapport au prix. Et je crois que là, il y a un vrai enjeu. Personne ne peut... Alors, il y a des opinions plus ou moins diverses. Ce matin, en discutant autour du café avec Jean-Paul Bettebèze, nous avons échangé sur l'évolution de l'euro. Et sans vouloir trahir notre conversation, je pense avoir compris que nous étions d'accord pour dire que l'euro allait s'apprécier. Et la région Aquitaine, elle est sur des marchés où elle va exporter. Et elle est sur des marchés où il y a des concurrents étrangers. Il y avait dans le groupe 3 un personnage qui était un étranger total. Il venait de la région Midi-Pyrénées. On l'a écouté respectueusement parce qu'on est poli dans cette région. Mais enfin, c'était quand même un étranger, faut pas... Et donc, l'étranger est partout. Le concurrent est partout. On vient, ils viennent de la région Midi-Pyrénées pour répondre aux appels d'offres du Conseil régional de l'Aquitaine. Donc, la concurrence est redoutable. Mais vous savez qu'il y en a qui sont susceptibles de venir de Shanghai, de Hong Kong, de Stuttgart, de Milan, pour répondre aussi aux appels d'offres. Et donc, la concurrence est là. Et... face à cette concurrence, un des problèmes, un des enjeux, c'est comment vont se comporter nos prix relatifs et notamment comment va se comporter l'euro. Et je pense que c'est une des questions qui se posent et que devront se poser les économistes. Enfin, pour finir avec Frédéric Bastiat, si j'ai juste un message à délivrer, Frédéric Bastiat écrivait beaucoup contre le protectionnisme. D'abord parce que sa maison de commerce à Bordeaux avait été ruinée par des décisions protectionnistes. J'ai sous les yeux le président de la Chambre régionale de l'agriculture. J'ai trouvé son exposé passionnant. Mais je lui dirai une chose, je ne suis pas d'accord avec le fait que la fin du protectionnisme dans l'agriculture soit une mauvaise chose. C'est par la fin du protectionnisme partout que des régions comme l'Aquitaine se porteront mieux. À la fin du groupe 3, il y a quelqu'un qui a parlé des canards. Le canard aquitain est concurrencé. Le vin aquitain est concurrencé. On trouve maintenant dans des pays où on ne pourrait pas le soupçonner des vins qui, quand on vous les présente, sont présentés comme des vins excellents. Et ils viennent d'Afrique du Sud, ils viennent de Californie, ils viennent d'Australie. Et les gens qui vous les servent disent « oui, oui, prenez ça, c'est meilleur que les vins français ». Et donc la réponse à ce genre de choses, c'est, et c'était ce qui avait été dit dans l'atelier 1, c'est l'innovation, la recherche et le développement, l'action... et la destruction des usines à gaz. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots.
Merci Jean-Marc Daniel.